En gros, c'est ça. Pour la plupart des métiers, et on est en train de généraliser sur un test technique, alors plus ou moins poussé, ça va dépendre aussi de l'expérience de la personne. Plus la personne sera expérimentée, plus le test sera poussé. En fait, c'est logique, on demandera plus à une personne qui a 15 ans de métier et qui est censée maîtriser son sujet qu'à quelqu'un qui sort, qui sort d'études, hein, tout simplement, qui est tout juste diplômé.
Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Trimoji, l'assistant soft skills intelligent pour sécuriser les recrutements et la mobilité interne. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation, je pars à la rencontre de recruteurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de Future of Work.
La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Nadoulec. Salut Jérémy.
Salut, bonjour à tous.
Comment tu te sens? Comment ça va là?
Je me sens très bien, écoute. Pas de problème actuellement. Tout se passe bien, donc je me sens bien.
Bon, toi, Jérém, tu es responsable recrutement et formation chez Serre France Alliance aujourd'hui.
C'est ça, Serre France Alliance, sans, précisons, une entité
Précisons.
du réseau Serre France, tout à fait.
Ouais, Serre France, en deux mots, c'est.
Un cabinet d'expertise comptable et de conseil qui est sur un mode associatif. C'est un peu la particularité dans un cabinet d'expertise comptable.
Recruter des comptables.
Des comptables, des conseillers, des assistants comptables, des experts comptables, des gestionnaires de paye, voilà un petit peu tout ce qui tourne autour de l'expertise comptable et du conseil en entreprise.
Ok, impeccable. Tu sais comment ça se passe un épisode de Back to the Future of Work? On a fait un. En fait, ce que j'ai trouvé cool quand on a organisé cet épisode, c'est que en fait tu m'as dit non non mais je veux pas les questions avant, on y va, let's go. Hein.
On voit comment ça
Téméraire.
passe. Ou un peu fou, je sais pas, à voir après à la fin de l'épisode, mais oui, l'objectif c'est de discuter, d'échanger, donc j'ai pas forcément besoin des questions, et puis il n'y a pas forcément de choses qui peuvent me coincer, donc après voilà, je partirai là-dessus, puis je réfléchirai, et on verra comment ça se passe, mais oui, pas forcément de besoin de questions en amont. En tout cas, j'espère pas regretter mon choix à la fin, mais
Non, non, tu
pour
ne
l'instant ça
regretteras
va.
pas, t'inquiète pas. Non, je vais juste faire en sorte de te piéger pendant cet
J'espère,
épisode. C'est mon
j'espère.
objectif,
Je
du coup.
compte là-dessus d'ailleurs.
Tu m'as mis un challenge là. En général, ça se passe en trois temps: passé, présent, futur.
D'accord.
Donc, pour pouvoir prédire le futur, on fait un petit audit du passé, donc ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu as tes enjeux, tout ça, tout ça. Et ensuite, on va s'orienter sur le futur avec deux, trois questions clés, tu vas voir. J'ai des questions plutôt sympas pour
Plutôt
dessiner
sympa.
un peu le futur. Ouais. Et vu que tu es dans le recrutement depuis un sacré temps maintenant, tu vas nous
Ouais, ça
raconter un
commence à
peu.
faire.
Ouais. Bah justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux. Tiens, tu passes de l'autre barre, de l'autre côté, tu
C'est
vois,
bon,
en
faut que
mode
je me pitche,
candidat.
c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est
Ok.
ça. Qui es-tu quel est ton parcours, Jérémy?
Bah, je pense qu'on peut dire déjà que j'ai un parcours, enfin, le fameux parcours atypique, qu'on a de plus en plus, mais là en l'occurrence, je pense qu'on peut le dire, je suis passé donc bah, bien sûr du recrutement actuellement, mais je viens de la forêt, j'ai été bûcheron dans ma jeunesse. J'ai évolué dans ce milieu-là pendant 5-6 ans, pendant mes études. Ensuite, je suis parti, donc j'ai continué, je suis parti vers d'autres voies, et notamment les ressources humaines avec le recrutement. Je suis passé par le cabinet de recrutement, plutôt des gros groupes du type Adecco, pendant 2 ans. Expérience pas forcément bien terminée. Voilà, c'est pas forcément bien passé. Je suis reparti sur d'autres études, toujours en RH, et puis sorti d'études au moment où c'est pas le plus opportun d'un point de vue économique, donc bah pas forcément de boulot, donc un peu d'intérim, et puis on se retrouve à porter des cartons dans une boîte de logistique, et puis les gens se disent bah c'est bizarre, il est un peu moins con que les autres quand même celui-ci. Et au bout du compte, bah, on me propose un poste de manager d'équipe. Je suis OK, mais moi je sais pas ce que c'est, j'ai jamais fait, je connais pas. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en effet, ça s'est bien passé. 6 ans plus tard, je me suis dit, il faut quand même que j'arrête à un moment donné. Parce que à la base, c'est pas mon métier d'être en activité logistique comme ça. Donc je me dis, c'est reparti, on tourne dans les RH et on tourne dans le recrutement. Et donc, retour en cabinet. Je suis vraiment issu du cabinet de recrutement. Cabinet plutôt classique avec chasse de tête, avec approche candidat. avec une méthode sous contrat et pas en success, aussi qui a aussi une forte, pas importance, mais en tout cas une différenciation de la façon de travailler. Et puis au bout d'un moment, la vie personnelle, qui dit, bah ok, le combiné c'est bien, Paris c'est très bien, mais étant situé en province, avec un enfant qui arrive, etc., tout ça bouscule un petit peu tout, toutes les lignes, et puis changement de poste pour prendre un poste de responsable recrutement et formation, donc au sein de Serre France. Donc là, on arrive il y a un an, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et puis, donc maintenant, on se projette vers d'autres projets, justement. Comme je te disais, donc là, pourquoi pas partir. L'objectif, c'est de quitter encore, quitter la France, pourquoi pas, et puis d'aller au Canada. Donc ça, c'est plutôt le futur. On pourra en venir derrière. Donc, changement de poste et retour en cabinet pour justement préparer au mieux la future étape qui est donc ce départ vers Montréal et vers le Québec, province du Canada. Voilà. Ça, c'est donc un très succinct et voilà un résumé de l'évolution de ma carrière. Et donc tout ça, on arrive à une petite dizaine d'années de recrutement. Ouais, 8 ans, je crois maintenant, ça doit être ça. Et puis 5 années complètes en logistique et puis 4 ans de travaux forestiers pendant mes études. On va dire après le collège et puis avant les études supérieures. Donc ça fait un bon mélange de pas mal de choses différentes.
Carrément. C'est quoi les études de bûcheron?
Ben c'est ni plus ni moins qu'un BEP et un CAP de travaux forestiers. Voilà.
D'accord.
Donc tu vas
Études
dans une
destinées
école.
à garde forestier ou...
Ouais, voilà, t'as tapé juste. En fait, petit, je me disais pourquoi pas être garde forestier. Puis quand au collège, on t'annonce en fin de premier trimestre que tu peux pas aller en général, parce que tu n'as pas le niveau, tu cherches un BEP, voilà, tout simplement. Puis je ne me voyais pas être en CFA sur de maçonnerie ou automobile ou autre. C'est pas quelque chose qui me. Je ne me sentais pas du tout bricoleur. Bon, tu me diras, pour être bûcheron, il faut quand même un peu doué de ses mains, mais sinon tu les perds. Mais ouais, je ne me sentais pas là-dessus. Et j'ai trouvé ce truc-là, ce formation de travaux forestiers. Et j'ai fait un test pendant 3 jours. Il y avait une opportunité de faire un test dans l'école pendant 3 jours. Ça m'a plu. Je me dis pourquoi pas. Puis après, je suis parti, quoi. Voilà.
Ok.
Donc internat pendant 4 ans. Et puis BEP bac pro, parce qu'à l'époque, j'ai pas eu la chance de faire le bac pro en 3 ans. C'était le BEP puis le bac pro. Donc 4 ans pour le faire, donc une année de retard déjà pour commencer. Et puis après, BTS en lycée agricole, commerce de bois, forcément, tu le coupes, puis après tu le vends. Et puis après, j'ai fini en école, en maîtrise des industries du bois. Donc là, on est plutôt dans du management. Donc tu le coupes, tu le vends, et puis tu gères les entreprises qui vont le fabriquer aussi. Donc voilà, en gros, c'est un peu la filière au complet. Et puis après tout ça, se dire, le bois, honnêtement, je m'en fiche un peu. Donc j'ai voulu repartir en général. Donc là, je me trouvais en IAE classique, dans une fac, sur un master 2, gestion de société et entrepreneuriat, quelque chose de classique. Et c'est là que j'ai découvert le recrutement. C'est à partir de là que les ressources humaines se sont mises en place.
D'accord. Et pas d'envie particulière de retourner un jour vers ce secteur?
En fait, j'ai beaucoup pensé quand je cherchais du travail après mes diplômes, je me disais, c'est quand même une force, une compétence en plus, quelque chose que peu de gens ont en réalité, parce qu'il faut quand même avoir fait ces études-là auparavant pour avoir ces compétences-là. Mais l'occasion s'est pas faite. Globalement, on est quand même assez loin des villes pour ces postes-là, et je suis plutôt un citadin. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'aller me mettre au fin fond de la campagne, auprès d'une papeterie ou d'une scierie. Je préfère largement les centres-villes quand même. Et puis à côté de ça, maintenant ça fait. Je ne sais même plus combien d'années que j'ai quitté cet univers-là et je me rappelle plus grand-chose. Pour être tout à fait honnête, je ne serais pas beaucoup
C'est vrai
plus
que ça.
efficace qu'une autre personne qui débuterait et qui serait en capacité d'apprendre et découvrir ce secteur-là. Voilà, j'ai d'autres secteurs que je maîtrise beaucoup plus maintenant.
C'est
C'est
vrai que
sûr.
les compétences techniques, ça se perd en fait.
Bah oui, ça forcément, elles sont remplacées par d'autres en fait. Au bout d'un moment, quand on n'utilise plus, qui est logique, hein, on perd un petit peu de ses compétences et de ses connaissances. Et si on n'est pas formé en continu, c'est aussi pour ça qu'on se forme toute notre vie, hein. Forcément, c'est pour que ça reste et que ça se développe. Là, la filière bois, je t'avoue que, pouf, si, quand je me balade dans la forêt, j'arrive à reconnaître les arbres, c'est sympa. Ça fait toujours son petit effet, en famille et
C'est déjà
autres.
pratique, c'est
C'est
déjà
déjà pas
pratique
mal. Un peu de planche de bois de temps en temps, mais ça se limite là, honnêtement.
ça. Ok. Cool. Donc du coup, bûcheron, cabinet, gros cabinet à déco, logistique, ensuite petit
Externe
cabinet, et
cabinet,
ensuite
externe recrutement, ouais, même pas. Et là, oui, là actuellement, c'était un cabinet un petit cabinet d'une quinzaine de personnes avec un système de consultants et de chargés de recherche, chargés de recrutement qui évolue après et qui gère un portefeuille, quoi. Quelque chose de plutôt classique,
okay.
Multisectoriel, ce qu'on appelle multispécialiste, sans BU qu'on peut retrouver dans un système classé de cabinet un peu plus gros, avec une BU industrie, une BU finance et des consultants dédiés. Non, on avait un peu de tout, on gérait un peu de tout, on était lié à un client plus que lié à un secteur ou des fonctions, on va dire.
Ok. Plaît,
d'ailleurs, globalement.
Moi, j'ai fait mes devoirs.
Parfait.
J'ai fait mes devoirs, c'est parce que je sais que là, t'es sur Serre France. Je sais que la vie peut mener à d'autres aventures demain. Et donc, du coup, pour ceux qui écoutent le podcast, en général, cette partie-là, je la développe sur tes enjeux actuels, etc. Mais j'ai envie de passer du temps sur le futur parce que je pense que t'es assez smart sur pas mal de machins et on a déjà échangé par ailleurs avant ce podcast. Donc, je vais faire un accéléré, tu me dis.
Dis-moi.
Si, là, je vais faire gagner 30 minutes de podcast aux
éditeurs. Ça marche.
Pas mal.
Alors, ça
nous,
pas
c'est des formats longs en plus. Donc, tu étais avant au cabinet de recrutement, mais aujourd'hui, tu es responsable recrutement et formation pour toute la structure depuis un an.
Oui.
Expertise comptable des agriculteurs TPE. Ouais. 700 personnes, hein, Serre France, hein, quand même.
Serre France Alliance Centre, ouais. Bien ouais. Stipulé parce que Serre France classique, c'est plus de 10 000 personnes.
Ouais. Alliance
Centre, c'est une entité qui gère 5 départements. Voilà, tout simplement.
Grosso modo, tu fais du recrutement, de la formation, de l'accompagnement des managers, etc. Tu recrutes principalement des comptables, 60%, 10% de conseillers en société, 5% de support, des gestionnaires de paie, des commerciaux, des admins de réseau, du marketing, bref, général.
Oui.
150 recrutements par an, 40 postes ouverts en permanence, de une semaine à un mois et demi du time to hiring, de la prise de contact jusqu'à la signature du contrat.
Ouais, ça c'est le classique, et puis malheureusement il y a des choses qui sortent du cadre, quoi. Voilà. Où on est sur des délais différents, de par une localisation complexe ou autre, mais oui. Mais globalement on est sur entre très très rapide et chanceux, et puis un mois et demi, deux mois généralement.
Tes méthodologies pour faire tes briefs de poste, somme toute classique, tu discutes avec l'hiring manager qui fait une demande spécifique en détaillant ses besoins, avec une trame, tu vas récupérer s'il y a des besoins récurrents, l'expérience, les compétences, le milieu dans lequel il doit évoluer, si c'est agricole ou non. J'avais noté ACS artisan, qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, ACS c'est ni plus ni moins que artisan commerçant service. Donc en gros c'est la typologie de nos clients. Voilà. T'as d'un côté le monde agricole, qui est en gros 50% de notre chiffre d'affaires chez Serre France Alliance Centre. Et puis le reste, c'est des artisans, des commerçants, des professions libérales. Et la particularité, comme tu l'as dit, c'est que ce sont des TPE avec un petit peu de PME.
Yes. Tu décomposes ton process de recrutement. Tu m'as dit que tu utilisais des job boards type APEC, Pôle emploi, etc. Tu avais arrêté MétéoJob.
Ouais. Pour le remplacer par HelloWork.
Exact.
Ouais.
Ouais.
Tout à fait.
Et tu, grosso modo, tu faisais dans ton process trois interviews. Donc, une interview de préqualification.
Ouais. Téléphonique.
Tu as certains points. Ouais.
Ouais.
Une première interview avec le manager.
Et quelqu'un des RH. En l'occurrence, le référent recrutement. On fonctionne par référent recrutement par zone de géographique. On est divisé en deux, une zone nord, une zone sud. Et moi qui gère d'autres postes un petit peu transverses. Okay. Donc, j'ai mon équipe qui se partage la zone en deux parties. Et qui sont sur tous les rendez-vous avec les managers.
D'accord.
Et si c'est pas elles, parce qu'en l'occurrence ce sont deux femmes, c'est moi qui prends le relais à ce moment-là.
Ok. Et s'ensuit une deuxième interview avec une mise en pratique technique avec des managers spécifiques ou le N+2 ou un autre collègue si besoin.
Voilà. En gros, c'est ça. Pour la plupart des métiers, et on est en train de généraliser. Sur un test technique, alors plus ou moins poussé, ça va dépendre aussi de l'expérience de la personne. Plus la personne sera expérimentée, plus le test sera poussé. En fait, c'est logique, on demandera plus à une personne qui a 15 ans de métier et qui est censée maîtriser son sujet qu'à quelqu'un qui sort d'études, tout simplement, qui est tout juste diplômé. Donc voilà, mise en situation avec, comme tu l'as dit, le N+2 ou alors un manager d'une équipe un peu transverse sur un autre site ou autre pour avoir aussi un autre regard. Et puis vu que c'est bien en situation, généralement il faut être trois, parce qu'une personne qui va observer, une personne qui est donc dans la mise en situation elle-même, donc qui joue le rôle généralement d'un client ou c'est généralement un client avec une mise en situation sur soit du conseil, soit de la comptabilité. Généralement ça se passe comme ça.
Ok, très clair. Tu utilises un ATS, toi, c'est Between.
Ouais, tout à fait.
Et avant, tu étais sur RH Profiler.
Oui, qui vient d'ailleurs de. Ils viennent de se racheter. Between vient de racheter RH Pro, tout à fait. Donc, on était sur l'un et on est passé sur l'autre au mois d'octobre dernier.
D'accord. Quand on a échangé, tu m'as parlé qu'il y avait une base technique intransigeante, c'est-à-dire que bah, vu que c'est de la métier du comptable, conseil, gestionnaire de paye et tout ça, il y a quand même du diplôme, de l'expérience et de la compétence à avoir. 40%, c'était ton chiffre sur le profil, et le reste, c'était 60% valeur humaine, compétences comportementales, soft skills, savoir-être, etc.
Ouais.
Quels sont les savoir-être du coup que tu vas identifier, toi?
En fait, déjà, il faut que la personne, je dirais, adhère aux valeurs de l'entreprise. Je l'ai dit au début, on est sur un système associatif qui est différenciant des autres cabinets d'expertise comptable. Généralement, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent ce milieu-là, c'est un milieu qui est très dur en termes de stress, en termes de pression, parce qu'il y a des... Là, justement, ils sont en plein dedans. On est en plein clôture fiscale actuellement, période fiscale, avec la fin des principales... entreprises qui clôturent au 31 décembre leur bilan, leur exercice comptable. Et en gros, on a trois mois et demi pour pouvoir sortir les bilans et pouvoir après continuer l'activité comptable. Et donc, il y a des valeurs qui sont mises en place par l'entreprise et même, je dirais plus loin, par leur réseau de manière globale. Ce n'est pas uniquement lié à Serre France Alliance Centre, mais bien à Serre France, des valeurs de proximité, de soutien, d'entraide qui sont très importantes pour nous. C'est-à-dire que, en gros, chaque comptable a un portefeuille, donc qui est plutôt en autonomie, mais à côté de ça, on reste dans une équipe. Donc, il faut être en capacité aussi de travailler en équipe, d'aller filer un coup de main quand il y a besoin, d'aider un collègue s'il y a des questions. Voilà, on est dans sa production parce qu'ils ont une prod à faire, ils doivent, au bout du compte, délivrer ce bilan et cette liasse fiscale, cette plaquette commerciale à leurs clients, dans des délais appartis, forcément. Mais à côté de ça, on reste quand même une société avec des équipes et un groupe. On est un collectif aussi, et ça, c'est aussi important. Donc, c'est des choses qu'il faut réussir à identifier, le fait d'être en capacité de travailler en autonomie, mais au sein d'un groupe. Et puis après, il faut aussi être en capacité d'identifier, je dirais, on est plutôt dans un esprit de famille, de cohésion, qui fonctionne toujours avec ce côté équipe et que tout le monde n'a pas forcément, alors, ou que les gens pensent avoir et qu'en réalité n'ont pas forcément. Et ça, pour nous, c'est aussi important d'identifier cette partie-là parce que sinon, en fait, sinon l'intégration ne se passe pas bien au sein des équipes et derrière, on loupe des recrutements. Parce que à un moment donné, alors oui, on peut dire que l'intégration se passe mal ou qu'elle n'est pas bien faite, etc. Mais il y a aussi des erreurs de casting avec des personnes qui, en fait, ne fitent pas avec une équipe, avec un manager, etc. Parce que les valeurs sont pas les bonnes et parce que l'attendu n'est pas le bon. Et là-dessus, c'est aussi notre boulot en tant que RH et en tant que recruteur d'identifier cette partie-là, autant sur la partie technique. Concrètement, moi, je leur dis, je suis incapable de. Alors, maintenant, en une année, je suis un peu plus capable de dire quand même si un comptable que j'ai en face de moi essaie de m'enfumer ou si clairement il a des bonnes compétences en comptabilité. Mais sur la partie savoir-être, c'est notre boulot. C'est aussi celui des managers parce qu'ils ont aussi l'habitude maintenant d'avoir des personnes avec eux, d'avoir une vision plus proche de leurs besoins aussi. Mais c'est un petit peu tout ça notre objectif au quotidien avec mes équipes.
Ok, super clair. Et toi, t'as déjà utilisé, parce que je le sais, t'as déjà utilisé plein d'outils d'évaluation des soft skills et tout ça. T'as utilisé OPR, le MBTI, Performance, le PSV20, Assess First, c'est
ouais.
Ça ?
Ouais.
Donc t'as quand même une connaissance et une appétence pour ce type de produits, d'outils, etc. Sans faire de prosélytisme, et ça j'en fais jamais pendant les épisodes de podcast, on va pas en faire, on va pas commencer aujourd'hui. Je veux juste une question générale sur ces outils. Quels sont les avantages et quels sont pour toi les inconvénients de ces machins-là?
Je vais commencer par les inconvénients pour finir sur les avantages de tous ces tests et toutes ces possibilités. Pour moi, l'inconvénient, c'est que de plus en plus, les gens sont entraînés, entre guillemets, et ont l'habitude d'en passer. De plus en plus de cabinets en font passer, de plus en plus d'entreprises en font passer. Donc là où auparavant une personne n'avait jamais passé de test de sa vie, là entre guillemets ils en ont déjà fait souvent au moins un et assez régulièrement un deuxième différent. Donc alors sans, je ne vais pas non plus dire qu'ils sont en capacité de flouer le test, mais au moins ils sont peut-être en capacité de un peu orienter ou minorer certains défauts qu'ils peuvent avoir ou un peu accentuer certaines choses qui pourraient être nécessaires dans leur poste. Certaines compétences, que ce soit, bon, là en l'occurrence, plutôt des savoirs, plutôt en soft skills. À côté de ça, là où le point positif pour moi, c'est que lorsque vous avez une base de choses qui peut fonctionner avec une équipe, on parlait tout à l'heure de réussir à fitter avec une équipe et avec un manager, lorsque vous savez comment votre équipe fonctionne d'un point de vue savoir-être, c'est beaucoup plus simple avec des outils de vous dire, bah voilà, là au moins on sait que d'après ce qu'on peut déduire du test, ça devrait fitter. En tout cas, il y a des choses qui coïncident et qui devraient plutôt bien fonctionner. Ça permet de rassurer et de valider certaines choses. Quand je suis arrivé chez Air France, ils utilisaient l'OPR. Moi, je ne connaissais pas du tout l'OPR. J'ai découvert donc ce test-là. Alors, entre-temps, on l'a arrêté. On a arrêté notre partenariat avec eux. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas les besoins qu'on a actuellement. C'est un test qui est lourd. Là, en l'occurrence, la version qu'on avait, c'était 2 heures de restit, etc. Je suis désolé, mais quand on recrute 140 personnes, si on doit restituer toutes les personnes qu'on entretient pendant 2 heures, techniquement, c'est compliqué. Alors, si c'est pour un test qui est fait que pour les gens qu'on recrute, pour voir si derrière ça... Bon, j'ai envie de dire OK, mais en cas d'erreur, si on doit après annoncer à la personne qui on ne peut plus recruter parce que le... Non, pour moi, ce n'est pas possible. C'est soit on le fait passer qu'en interne, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, soit un test, on le fait passer à tous les candidats qu'on rencontre. Et à ce moment-là, là, il y a un vrai intérêt. Et l'OPR ne répondait pas à ce besoin-là. Actuellement, on n'a plus rien. Voilà, aussi très simplement. Ce n'est pas dit que ça change. On ne sait pas encore. On est en train de réfléchir sur ce qu'on pourrait mettre en place et comment ça pourrait se passer. Les managers sont assez demandeurs de tests parce que forcément, ça les conforte, je pense, sur un savoir-être. C'est vrai que c'est toujours très compliqué, d'autant plus actuellement où les personnes sont habituées à passer des tests, mais sont aussi habituées à passer des entretiens. Donc, on est loin des personnes qui, il y a quelques temps, arrivaient un peu la fleur au fusil et n'étaient pas prêtes. Là, les personnes sont prêtes. Alors, elles ne connaissent toujours pas l'entreprise, hein, mais au moins, elles sont prêtes en termes d'un point de vue personnel. Elles se connaissent, elles connaissent leurs points forts, leurs points faibles, ce qu'il faut dire, pas dire en entretien. Et bah, quand on est un petit peu un bon acteur, ça peut être plus facile de flouer un recruteur, même si on a l'expérience derrière. Donc, ça réconforte aussi pas mal les managers sur ces points-là.
Ok. Quand on avait parlé des objectifs un peu principaux, moi, ce que j'avais capté, c'était grosso modo, le train dans lequel tu avances, c'était de conforter une position nationale de leader. Alors, tu es le deuxième, je crois, au niveau France. Il y a Fiteco dedans, au niveau Air France.
Ouais, alors c'est un peu spécifique parce qu'en fait, il y a deux univers dans l'expertise comptable. Tu as les mastodontes, style Deloitte et KPMG. Qui eux sont experts comptables, mais ils sont aussi audit et commissariat aux comptes. Donc là, c'est spécifique. Donc nous, on ne fait pas partie de ce groupe-là. On fait partie du groupe des experts comptables uniques. Et dans ce cas-là, on est soit deux, soit trois. Ça varie un petit peu. Je crois qu'on est trois en ce moment. Mais oui, l'objectif, et toujours quand je dis on, c'est le réseau Air France entier. C'est pas l'entité Air France Alliance Centre. Parce que dans ce cas-là, on est très très loin dans le classement, si c'est que nous. Mais oui, l'objectif, c'est de conforter notre position et c'est aussi de développer la partie conseil d'entreprise. Voilà.
Oui, d'être, plus de conseil, ouais.
Voilà. Parce que l'expert
comptable, finalement, il va évoluer vu qu'il y a plus d'automatisation et ce genre de choses.
Le métier de comptable va évoluer avec l'IA, tout à fait, tu as raison. Le poste change. Alors, le poste de comptable changera pas forcément beaucoup. En fait, c'est une partie de son poste qui va évoluer. Et c'est notamment le poste d'assistant comptable qui, lui, va plus évoluer. Par exemple, chez nous, le métier a déjà évolué depuis quelques temps. On s'est déjà préparé à ça. Donc, nos assistants comptables, entre guillemets, vont plus loin dans la comptabilité que les assistants comptables dans beaucoup d'autres cabinets. On a déjà essayé d'anticiper cette partie-là. Mais on essaie d'aller plus loin aussi dans la partie conseil. L'objectif, c'est toujours d'accompagner nos clients, de la création de leur structure jusqu'à la fin. Alors, peu importe le type de fin qui est mis en place, hein, que ce soit un départ à la retraite, un rachat, une transmission, malheureusement une liquidation ou autre, mais en tout cas, nos clients ont besoin d'être accompagnés au quotidien et on souhaite répondre à ces besoins-là. C'est l'objectif.
Mmh. Ok. Tu avais parlé aussi de rétention de talent, parce que actuellement, tu remplaces plus que ce que tu crées.
Ouais, globalement, on est sur. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en termes de pourcentage, mais je te dirais qu'on est à peut-être 90% de remplacement et 10% de création de poste. Alors, ça s'atténue. Là, sur cette première partie d'année, sur la fin de l'année précédente, pour te dire, quand je suis arrivé, on était à. On tournait entre 70 et 80 postes. Et là, on est plutôt aux alentours de 40-45. Donc, il y a eu un gros travail de la part des équipes de production sur un retravail aussi des réels besoins. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait un peu le réflexe de une sortie, on remplace. Donc, on rouvre un poste dès qu'une personne sort. Et en réalité, c'est pas forcément nécessaire. Il y a des personnes qui étaient là, mais qui sont pas forcément obligées d'être remplacées après leur départ. C'est aussi une réalité dans nos entreprises. Et il y a eu beaucoup de travail par rapport à ça. Donc, là, on retrouve des nombre de recrutements qui sont plutôt corrects par rapport à la taille que l'on peut avoir. On est sur ce qui sont plutôt normales. Mais on est toujours sur un remplacement plutôt que sur du pur développement. Voilà. Et automatiquement, derrière, en stratégie, ça devient pareil. En fait, on est dépendant de notre ressource humaine, hein, automatiquement. Et si vous êtes dans une stratégie de remplacement parce que vous avez des départs de talent ou juste parce que recruter est dur dans votre situation, on est sur des métiers qui sont extrêmement pénuriques en comptabilité. Alors, tu vas me dire, OK, mais comme maintenant beaucoup, beaucoup de secteurs, c'est vrai, mais on reste quand même extrêmement pénurique sur ces métiers-là. Et automatiquement, si vous agrandissez le temps de recrutement sur certains sites, c'est très, très, très long. On est sur plus d'un an de recrutement sur certains sites. Donc, ils étaient ouverts avant que j'arrive et ils seront encore ouverts quand je vais partir. Donc, c'est vraiment malheureusement le cas. Et d'ailleurs, les premiers pénalisés, ce sont les équipes. Et donc là, on souhaiterait développer l'activité. Sur certains points, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les ressources qui le permettent. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Et c'est un problème que je retrouve en discutant avec d'autres de mes homologues et mes confrères. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'évolution parce que la ressource en face n'est pas présente.
Ok. Ok. On a fait un petit tour quand même sympa là de tes enjeux, comment tu recrutes et tout ça. Donc là, je te dis que ça, normalement, ça prend une heure. Et là, on est en une demi-heure, tu vois. Cool. Et ça va être intéressant parce que j'ai plein de questions qui me sont montées, surtout que ça fait quasiment une dizaine d'années que tu fais du recrutement, tu as vu la version cabinet, là t'es sur différents secteurs et tout ça. Avant de rentrer dans des questions un petit peu plus générales, c'est quoi la question que tu t'aimes bien poser en entretien?
J'aime beaucoup me focus sur l'extra professionnel. Ouais, j'aime beaucoup voir un peu ce que la personne fait en dehors du boulot ou ce qu'elle fait pas. On a aussi des personnes qui sont un peu bêtes en disant je fais pas grand chose en fait, juste je suis avec ma famille et c'est déjà énorme en fait. Donc voir un peu comment les personnes. Alors même si c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, on sait que c'est quelque chose qui est aussi attendu par les recruteurs, mais j'aime bien, un petit peu quand la personne fait du sport, quel type de sport, le cinéma. Alors maintenant, on a de plus en plus de Netflix. Bon, ok, super. Mais dis-moi en plus, qu'est-ce que tu regardes sur Netflix? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu fais ci? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment comme série? Pourquoi tu regardes celle-là et pas une autre? Voilà, pour essayer d'avoir un peu d'infos sur autre chose que le poste. Et puis, je passe beaucoup de temps à ce que les gens souhaitent aussi. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, le test technique va très vite lever le voile sur la capacité ou non à faire quelque chose. En revanche, si la personne me dit moi ce que je souhaite, c'est travailler plutôt en autonomie seul sur mon poste, ne pas avoir trop de comptes à rendre, etc. Bon, déjà, lui, il n'a pas trop compris le système d'un cabinet. Mais voilà, ça permet de savoir directement que bah, ça ne sera pas en adéquation avec ce que nous, on a. Alors là, c'est un peu l'exemple facile. Mais voilà, je positionne beaucoup mes questions sur ce que la personne attend de son prochain poste et de ce qu'elle souhaite dans un avenir proche. C'est là-dessus que je travaille le plus. Après, honnêtement, après, il y a toujours voilà, un petit peu ce qu'ils ont préféré faire en amont, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils ont mis en difficulté. Mais je me focus plus sur ce que la personne souhaite.
Ok, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que fait la personne en dehors du boulot, en gros, grosso modo, ouais. Et qu'est-ce que tu attends de ton prochain poste et qu'est-ce que tu souhaites?
Ouais. Et ouais, puis la fameuse question, comment tu te vois dans 5 ans, en approfondissant un peu sur le voilà, comment est-ce que la personne se voit vraiment, et pas que dire bah voilà, je veux être expert comptable, par exemple. Ok, mais dans quoi? Dans un cabinet, en entreprise, tu te vois en associé, tu te vois pas en associé, tu te vois voilà. Vraiment essayer de que la personne se projette aussi sur ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle veut être dans 5 ans, dans 10 ans, ou même si c'est juste dans 6 mois. Mais de voir un peu un petit peu comment ça se passerait si on enlève en fait la limite du poste. Je veux pas qu'elle me parle dans ma société, juste de manière générale. On enlève le côté hop, entretien, voilà, on est potes, je te dis bah, dans 5 ans tu te vois comment? Ok, qu'est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Quel impact tu voudrais avoir sur ta vie et sur la société ou sur n'importe quoi? Et là, on enlève le côté purement recrutement. Et ça permet. Alors, certains vont jouer le jeu, d'autres vont dire moi, je me vois bien dans votre entreprise en tant que comptable. Ok, d'accord, bon, bah, t'as pas très bien compris l'objectif. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça, c'est pas un souci. Et d'autres vont dire moi, je me vois tout claquer, partir travailler avec une ONG. Ok, très bien, pas de souci. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le prendre parce que je sais que dans 2 ans, il va tout plaquer. Pas du tout. Mais je sais que ses valeurs d'engagement et les valeurs sociales sont plus proches de ce que nous, on peut avoir en tant qu'association et vont plus résonner dans nos valeurs et dans notre savoir-être qu'on va attendre. Et là, il y a un intérêt sur une réponse comme ça. Bien plus que ouais. J'aimerais travailler chez vous dans 5 ans.
Mais comment tu te vois dans 5 ans et quel impact tu voudrais avoir sur la société?
Tu me le fais, super. Dans 5 ans, je me vois à Montréal avec ma famille sur un poste en RH. J'aimerais bien. Si je peux, avec une entreprise qui a plutôt des valeurs que je partage, donc plutôt proche de, avec un impact sociétal positif, parce que globalement c'est quelque chose qui m'intéresse tout de même assez fortement, alors que ce soit sociétal, environnemental, voilà, en tout cas qui a un impact positif sur son environnement. Et puis oui, à Montréal, bien posé, tranquille, sur un poste qui me plaît. Avec mes week-ends au bord dans la campagne québécoise, ça me dirait vraiment pas mal, tu vois, ça dans 5 ans.
Au bord dans la Cachicoute.
Ouais, pourquoi pas, écoute. Hein. Ça serait pas mal.
Ok.
C'est l'objectif, okay. En tout cas.
Mais là, on sent le bûcheron qui revient là.
Eh ouais, je me dis pourquoi pas. Des petits week-ends à couper du bois en attendant.
Bah, on met dans la cheminée. Avec la chemise canadienne rouge et noire.
Et je l'ai déjà en plus. Donc c'est pas ouais.
Tu vas pouvoir, récupérer en plus tes bottes et ton matos.
Je rentre plus dedans, je pense, dans cette chemise, mais bon, c'est pas grave.
Ah, comme moi avec mes anciennes fringues, je te
rassure. C'est ça, à un moment donné, on est limité quand même.
Ouais. Ok, trop cool. C'est vrai que c'est une bonne question. Là, on va rentrer un petit peu sur des questions plutôt présentes, actuelles, machin, qui peuvent un peu déverrouiller potentiellement des gens, voir si tu as compris les trucs, essayer de faire un espèce de petit question-réponse rapido avec peut-être des espèces de petites bullet points, c'est-à-dire tes 3 conseils et tes 3 conseils pour faire ça. Donc, okay. Comment tu vends la boîte et le poste du premier coup?
Je suis précis et honnête sur ce qu'on propose et sur nos attentes. Voilà. Tu veux une réalité ou tu veux juste dans ce sens-là? Qu'est-ce que...
Ah, tu peux me faire un petit pitch, par exemple, quand tu pitches, toi.
Nous, en l'occurrence, sur Serre France, on met en avant le côté associatif, le côté différenciant, le côté équilibre vie pro, vie perso. Parce que c'est notre élément de différenciant par rapport aux autres cabinets. Où on est sur un système un petit peu... De forte pression et d'utiliser les personnes et de les changer quand la personne ne va plus. Chez nous, c'est pas le cas. Donc, on met assez fort l'accent sur cette partie qui est vie pro, vie perso et sur la partie évolution et formation par le biais d'une école interne. On a la chance d'avoir ça aussi en interne. Ouais, c'est aussi un de nos points forts. Et voilà, quand vous dites une personne qui est assistant comptable, bah, chez nous, tu peux devenir comptable en interne et on te fera évoluer, on te formera, bah, ça a un impact. Voilà. Forcément, ça a un impact.
Clairement.
Et on est écouté. Donc ça, c'est nos éléments différenciants. Alors bien sûr, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais en tout cas, ce sont nos éléments différenciants de notre côté.
C'est chez nous, tu vas apprendre.
C'est ça. Et si tu as les capacités, on te fera évoluer.
Ok, cool. Comment tu détailles et t'évites les biais cognitifs dans le processus de recrutement?
Je pense que c'est pas la répétition de questions, la reformulation. Je pense que c'est principalement sur cette partie-là. Ouais, je pense que c'est principalement sur ces choses-là. J'essaie surtout d'éviter de la part des managers avec qui on est, parce que eux sont un peu moins au fait de tout ça, et c'est surtout là où j'ai pas envie qu'il y ait de problème. Parce que derrière, sinon, ça peut être plus compliqué. Voilà. Il faut pas seulement, faut pas seulement, faut aller un peu plus loin que juste la parole qui est dite. Voilà. On sait que ça peut vite être compliqué quand on a quelqu'un qui par ses réponses correspond parfaitement à ce qu'on peut attendre de la personne, etc. Alors, il y a des moments où c'est une réalité. Il y a d'autres moments où ça ne l'est pas. Donc, il faut réussir à le faire. Et puis, c'est aussi par les outils qu'on va mettre en place à côté. On parlait tout à l'heure de tests de personnalité, qui peuvent révéler aussi certaines choses. Puis, le test technique, ça permet aussi voilà, de découvrir je dirais, de casser ce biais qui peut être mis en place et que le cerveau peut lui avoir en fonction des personnes avec qui on peut être en entretien. Voilà. Pour moi, c'est principalement ces parties-là. Ouais,
Ok,
se poser
donc
vraiment
aller
cette partie-là.
récupérer de la data,
Ouais, en
aller
fait, c'est
récupérer de
ça.
la data
C'est
pour
ça.
valider ou invalider ce que tu
C'est
avais
ça.
compris, quoi.
Ne pas, en fait, ne pas se laisser avoir par la première phrase, la première chose, et bien être sûr que ce que la personne a dit est bien dans le sens qu'il a voulu dire aussi. Pour ça, la reformulation est aussi très pratique. De reformuler le discours et en faisant rebondir la personne. Quand on creuse au bout d'un moment, voilà, le cerveau revient aussi un petit peu à lui, le biais cognitif se disparaît ou vient en tout cas à se calmer, en tout cas à baisser. L'objectif étant bah, de garder en lucidité et pas perdre cette lucidité face à un candidat, par exemple. Alors, pour moi, ce serait plus à m'emballer face à quelqu'un qui me paraît extrêmement bien. Je sais que j'ai eu des problèmes inverses où, je sais pas moi, une réponse mauvaise ou quelque chose, un comportement qui est pas le comportement attendu à un moment donné, va faire en sorte que l'intérêt de l'auditeur va disparaître. Et là, c'est aussi un biais qui est compliqué parce que quand d'un seul coup, vous avez un manager que vous voyez décrocher en entretien parce que ça va pas, ça correspond pas à ce qu'il avait à l'esprit, bah, il faut réussir à le refaire adhérer, à le refaire revenir. Parce que, à un moment donné, bah, un candidat peut se louper, ça arrive. Sur une question, on peut se louper, on peut ne pas être prêt à quelque chose, on peut aussi avoir une vision différente de son interlocuteur. Et c'est quand même important de réussir à casser ça et à faire revenir la personne dans l'entretien.
Ok, super clair. C'est quoi tes trois tips pour approcher ou attiser la curiosité de quelqu'un qui n'est pas à l'écoute du marché?
Ah là là.
Tu fais de la chasse sur LinkedIn?
Ouais. Et je fais de la
Qu'est-ce qui
chasse par
marche bien?
téléphone aussi.
Ouais, bah
Alors,
j'imagine,
pas
c'est
chez Air
pour.
France, hein, forcément, mais en fait, je vais te dire déjà ce qui marche bien, c'est la quantité. Déjà pour commencer, je pense que, et j'en suis persuadé, si on se limite en termes de nombre de personnes et qu'on se dit ça va aller, ça va suffire, c'est déjà la réflexion, elle va être compliquée. On sait que le taux d'ouverture est faible, on sait que et qu'après en plus faut réussir à avoir la personne au téléphone, et tout ça, tout ce processus fait que pour 100 personnes contactées, vous avez 4, 5, 6 échanges à la fin de compte qui sont pertinents et qui sont intéressants. Donc là, on est en train de travailler sur quelque chose qui, je pense, peut très bien fonctionner, c'est le CV inversé. Alors, qui n'est pas du tout une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus utilisé. On a commencé à l'utiliser, ça marche plutôt bien. En fait, je me dis que, alors oui, un objet pertinent, forcément, mais en fait, ce qui est pertinent pour l'un ne sera pas pour l'autre. Donc, c'est toujours un peu, voilà, je trouve que c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut surtout, c'est bien connaître son secteur d'activité et la typologie de candidats qu'on va contacter. Parce que, par exemple, là, typiquement, contacter un comptable en ce moment, c'est inutile. Il est sous l'eau, c'est pas le moment de l'emmerder avec ça. En revanche, d'ici quelques temps, ça sera marrant parce qu'il aura passé une énième campagne de fin de période fiscale compliquée, difficile dans sa boîte, et il sera beaucoup plus ouvert à un changement. Donc là, pour moi, la temporalité est très importante. En
Le
fonction des
timing.
métiers, le timing est très important. Et puis après, alors oui, je sais, des choses plus personnalisées, c'est vrai que ça fonctionne mieux. Mais après, je me dis maintenant, les gens savent pertinemment que même si c'est personnalisé, c'est de l'automatique. Donc, je me dis, est-ce que vraiment ça fonctionne toujours? Je ne sais pas si j'ai vraiment une solution. Là où est ma force et mes compétences, c'est lorsque j'ai la personne au téléphone. Là où vraiment, je trouve qu'on a un rôle très important en tant que recruteur, en tant que chasseur surtout, parce que recruteur, pas forcément, mais en tant que chasseur, je trouve que là, le rôle est important. Et il faut réussir à retourner la personne qui n'est pas à l'écoute. Ou qui clairement a d'autres choses à faire que nous écouter. Et là, c'est important. Sur l'écrit, je trouve que c'est compliqué, vraiment très compliqué. C'est plutôt la masse qui va faire la différence, la quantité de personnes contactées. Quand à un moment donné, tu as ciblé tout ton marché et que malheureusement, tu n'as plus de retour, c'est là où les choses complexes commencent à débuter.
Ok, super
Voilà
clair.
ce que je peux te dire.
Oh ouais, c'est très bon. Comment t'assures le culture fit?
Pardon,
Comment t'as
excuse-moi,
cette...
j'ai pas entendu.
Comment tu assures le culture fit, l'adoption à la
Ah,
culture?
l'adoption aux valeurs et à la culture. Et ben justement, c'est ce qu'on disait sur un peu les extras et autres. Ça en dit beaucoup d'une personne, sur ses valeurs, sur la culture qu'il peut attendre. Et puis, il y a une chose aussi importante, c'est déjà en parler. Je pense que dire quelles sont les valeurs de l'entreprise, ce qu'on attend des personnes. Et demander à la personne ce qu'elle souhaite. Alors bien sûr, avant de dire ce que nous on peut proposer, hein, automatiquement, mais lui demander un peu quelles sont ses attentes permet déjà de voir soit la personne s'est extrêmement bien préparée, elle connaît les valeurs de l'entreprise et la culture de l'entreprise, et à ce moment-là, il y a moins de problèmes. Et dans ce cas-là, bah, malheureusement, les personnes peuvent, on va dire, arranger leur réponse. Mais si ce n'est pas le cas, on voit déjà si ça peut fonctionner ou non. Et puis, il y a aussi les raisons du changement de poste qui en disent aussi très long généralement. Je le dis, nous, on est sur un système associatif avec un équilibre vie pro-vie perso qui est important, avec une autonomie dans la gestion du temps aussi qui est importante chez nous. Et quand on a une personne qui sort d'un cabinet ou d'un autre poste et qui nous dit bah, moi, ce qui n'allait pas, c'est que j'étais fliqué en permanence, c'est que je devais rendre des comptes dès que je faisais une minute de mon temps, il fallait que ce soit renseigné parce que sinon, ce n'était pas possible. C'était l'ultra rentabilité sur les dossiers, etc. Tout ça, c'est pour nous des alertes qui sont très simples à identifier, hein, mais qui nous disent, OK, la personne recherche autre chose, et ce qu'elle recherche, nous, on peut l'apporter, c'est notre culture d'entreprise. Et donc là, forcément, alors ça ne veut pas dire que la personne, une fois qu'elle sera en poste, en fait, va apprécier cette culture-là. Parce qu'on peut penser aussi, la personne peut penser vouloir quelque chose, et en réalité, parce qu'elle a un ras-le-bol ou parce qu'avec cette société-là, ça ne fonctionnait pas. Et une fois qu'elle est en place, nous, on a des personnes qui, en fait, bah, trouvent en réalité que ils ont plus ce côté challenge fort, on va dire, que peuvent avoir certains autres cabinets, et ils ont quelque chose qui leur manque à ce moment-là. Donc ça nous arrive aussi, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, je dirais que sur la partie fit entre la culture et les candidats, c'est un peu tout ça qu'on va essayer de jauger, de qualifier, pour justement savoir si oui ou non la personne fonctionnerait avec les valeurs et la culture de l'entreprise.
Ok, ça t'est déjà arrivé de, bah j'imagine que oui. Là, tout à l'heure, tu me parlais de des hiring managers que t'accompagnais pendant les entretiens et tout ça. Comment tu fais pour amener un manager à sortir de ses idées préconçues? Est-ce que tu peux me donner un exemple de d'échec ou de réussite que tu as eu avec un hiring manager?
Alors, moi j'en ai eu. Alors, chez Serre France, ça va plutôt pas mal. Ils ont une belle ouverture d'esprit et en fait, comment dire, Il s'autorise le droit de découvrir, en fait. Même si après, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais au moins, il se donne la possibilité de le faire. Donc ça, c'est plutôt très agréable en tant que recruteur parce qu'il n'y a pas le « non, ça ne m'intéresse pas » ou « j'en veux pas ». Tu vois, on discute, on voit. Et après, si malheureusement, après l'entretien, ça ne va pas, OK, on passe à autre chose. Mais c'est plutôt quand j'étais en cabinet avec des clients qui avaient des idées très, très arrêtées sur certaines choses. Et là, tu t'exposes même à comment dire, moi, je me rappelle au début de ma carrière à des clients avec fonction des diplômes. S'il n'y a pas tel diplôme, telle école, c'est pas possible. S'il n'y a pas telle origine, malheureusement aussi. Donc là, on est encore sur autre chose. Dans ce cas-là, pour moi, c'est un no-go. On arrête de travailler ensemble. Mais sur des choses plus, moins, je dirais, en qui sortent du légal, déjà, pour commencer, en fait, c'est leur montrer que dans ce qu'ils recherchent, il n'y a pas. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qu'ils veulent, c'est souvent reproduire quelque chose qu'ils ont déjà connu. Donc, le fameux mouton à cinq pattes. Sauf que pas forcément, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand vous avez un client qui vous demande un profil, mais qu'après 3 mois et demi de recherche, il n'y a rien parce que toutes les personnes qu'on contacte, soit ne sont pas à l'écoute parce que c'est des profils qui ne changent pas, ou soit sont 40% plus chers parce que la personne rémunère très très mal, ou soit n'ont pas le bon diplôme ou quoi que ce soit. En fait, ce qui est important, c'est que, à un moment donné, quand vous avez des preuves de ce que vous avancez, c'est soit vous avez face à toi une personne qui est obtus et à ce moment-là, tu n'as pas grand-chose qui pourra le faire changer d'avis. Ou soit, à un moment donné, il dit « Ok, bon bah je vois que là, en gros, vous avez fait tout ce qui était nécessaire et possible de faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ?» Et là où l'intérêt de métier de consultant, c'est-à-dire que tu arrives avec un conseil. Tu es là aussi pour conseiller la personne. Et c'est là où le métier prend tout son sens. C'est que d'ailleurs, tu vas pouvoir apporter une plus-value à ton métier et à ton client. Et c'est là, en fait, où tu vas pouvoir lui dire « Bah voilà, vous avez ça en tête, mais est-ce qu'en prenant, je sais pas, un profil qui est légèrement différent, mais avec une formation qui viendrait s'ajouter, est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à trouver quelque chose qui est en adéquation avec votre recherche ? Et c'est là où ça devient plus intéressant, et je pense que c'est ça. Si à un moment donné, tu es... en fait, on revient toujours un peu à la data. Si jamais ta data est bonne, que tu es sûr de ce que tu as fait, que ton travail est sûr, et que tu as confiance en ce que tu as fait ou ce que tes équipes ont fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de changer d'opinion, de faire changer d'opinion une personne. Que ce soit en interne ou que ce soit avec une entreprise. En interne, on a la chance de pouvoir aussi un peu forcer, entre guillemets, la main, ce qu'on ne peut pas faire en cabinet. Là, en interne, si je veux qu'il rencontre une personne, je lui mets le rendez-vous et je lui dis « fais confiance, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Alors, j'ai le droit à un ou deux coups. Si malheureusement, ça ne se passe pas bien, bon, il ne vaudra plus après. Mais en attendant, j'ai un peu de chance déjà. J'ai la possibilité de me tromper. Ça arrive avec les clients quand la relation est mise en place. C'est aussi ça qui est important. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des cabinets, surtout le dernier, où il y a une relation de confiance avec nos clients. On n'est pas là pour du one-shot. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que lorsque le client a confiance en votre travail, en votre capacité de jugement, on parle quand même d'un métier où le recrutement, c'est du jugement en réalité, hein, c'est de l'humain. Donc, on est là pour essayer de voir par rapport à un discours, par rapport à des faits, par rapport à des choses, si oui ou non la personne pourrait être pertinente pour un poste ou une entreprise. Donc, à ce moment-là, dès que la relation de confiance est en place, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'avais des clients, je leur disais, t'inquiète pas, appelle-le, il n'est pas dans ce que tu recherches, mais appelle-le, écoute-le, et je pense que ça peut être pertinent par rapport à ta recherche. Puis là, quand je faisais ça ne fonctionnait pas du tout, hein, parce que c'était le début, parce que c'était le début de la relation, et parce que ce n'était pas le moment de le faire. Voilà, c'est tout simple aussi. Il y a des moments où c'est possible et d'autres où ça ne l'est pas.
Et ouais, le recrutement, c'est du jugement.
Même s'il faut essayer d'être impartial, il faut essayer d'être objectif, mais à un moment donné, c'est aussi de l'humain. Donc, il y a ça aussi. Pour l'instant, l'IA ne fait pas tout. On est encore là. Donc, donc il faut rester là-dessus aussi.
Transition parfaite. Wow,
je te lance la perche, t'inquiète.
De fou, t'es trop doué. J'ai l'impression que tu sais mener les entretiens, toi, non?
Je sais pas. Peut-être que c'est une de mes compétences.
Peut-être que tu connais. Hein, peut-être que tu connais.
Peut-être que je te connais aussi.
Et bien, justement... À ton avis, quelles sont les pratiques ou les process qui vont disparaître, qui vont être amenés à disparaître, que tu voudrais qu'ils disparaissent ou que tu penses qu'ils disparaissent ?
Le sourcing. Le sourcing, ouais, je sais que pour certaines personnes, le sourcing, c'est toute leur vie parce que c'est une passion. C'est vraiment, ils aiment ce côté un peu, je sais pas. Alors moi, j'ai du mal à comprendre parce que c'est vraiment ce que je déteste le plus dans mon boulot. Mais ce côté un peu à la recherche de la pépite, comme comme le mineur au fond de sa mine qui creuse, qui creuse, qui creuse et qui finit par trouver sur la pépite qu'il recherche. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là. Moi, je l'ai pas du tout. Ce que j'aime, c'est une fois que j'ai la pépite, la convertir, transformer l'essai, si je peux me permettre la relation au rugby. Moi, j'aime plutôt ce côté-là. J'aime le côté relation candidat, le fait de discuter, d'échanger, de réussir à une sorte de drague, en fait, pour le faire passer, en tout cas, lui donner envie d'aller soit dans mon entreprise, soit pour l'entreprise sur laquelle je représente. C'est plus ça. Donc, je pense que tous ces métiers liés au sourcing, une fois que l'IA, et une fois surtout, parce que bon, l'IA, globalement, je suis persuadé que elle est déjà, le technologie est déjà en capacité de le faire. En revanche, ce qui n'est pas en capacité de le faire, c'est la personne qui recherche son boulot. Pour le moment, il faudrait que certaines choses soient mises en place sur les CV et autres, une certaine. Pas une standardisation, mais des choses minimum présentes dans un CV pour que l'IA puisse travailler correctement. Et là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que bah, forcément, il faut que les choses se développent aussi normalement. Alors peut-être que je me trompe, hein, tu me diras bien sûr rien, parce que je sais que de ton côté, c'est un sujet très actif. Mais voilà, je pense que toute cette partie recrutement, ça va disparaître, ça va finir par disparaître, la partie sourcing. La partie. Tout ce qui va être rapprochement entre. On parlait tout à l'heure de tests de perso, etc., mais de réussir à voir si ça peut fitter de manière générale. Je pense que tout ça aussi finira par disparaître. Ça sera de manière automatique. Et ce qui va rester du recrutement, c'est, alors, même si concrètement, si on veut quelqu'un d'objectif et d'impartial, la machine est toute trouvée pour ça. Automatiquement, elle n'a pas de jugement, elle n'a pas de tout ça. Elle se basera que sur des faits. Mais clairement, je pense que ça disparaîtra. Parce que, pas, pardon, excuse-moi, j'ai failli dire l'inverse de ma pensée. Je pense que ça, la dernière étape ne disparaîtra pas parce qu'on voudra toujours garder un humain qui va pouvoir choisir et discuter, échanger avec un candidat, avec un autre humain, pour justement, parce qu'il y a toute une partie de savoir-être, une partie de feeling, de ressenti que la machine, elle, aura beaucoup de mal à avoir. Parce que quand vous êtes face à une personne qui communique facilement, qui a l'habitude, qui est dans un métier de relation, type commercial ou autre, c'est son travail, c'est pas un problème. Quand on tombe en entretien, et je pense que toutes les personnes qui ont fait du recrutement l'ont vécu, mais quand on tombe avec une personne qui dit juste oui et non, bah là, c'est pas la même chose. Quand il faut réussir à ressortir la personnalité de la personne, ses compétences, parce que la personne, c'est pas qu'elle est mauvaise ou qu'il y a un problème, c'est juste que la personne est extrêmement stressée face à un recruteur en entretien et que bah, forcément, si l'IA se base que sur ses réponses ou que sur son comportement visible, bah, la personne ne sera pas recrutée parce que forcément, elle ne donnera pas envie de l'être. Et c'est là où l'humain a toujours son rôle à jouer, d'être forcément l'intermédiaire qui va permettre de vraiment essayer de creuser, d'aller voir, de connaître un peu toutes ces informations-là qui vont permettre à l'IA de travailler de son côté et de faire le boulot qu'on lui demandera. Donc sur cette partie sourcing, évaluation des candidatures, même évaluation des personnes sur certains points. Mais il y a toujours pour moi l'humain qui restera présent. Et j'espère, sinon j'aurai plus de boulot.
Ok. C'est intéressant. Si on se dit comment t'empêcherais les biais de l'IA? Tu utilises toi un peu l'IA ou pas?
Alors, je commence, je suis un peu comme tout le monde. On l'utilise pour les annonces, on l'utilise pour les trames d'entretien, on l'utilise pour des choses comme ça. Et on est sur du chat GPT. Hein. On va pas beaucoup plus loin pour l'instant. Après, il y a dans les job boards, l'IA est en place. Dans les ATS, l'IA commence aussi à être en place. Donc, on a du parsing de CV. Donc, ça commence bien sûr. Mais je vais pas beaucoup plus loin dans cette IA-là. En fait, pour moi, les biais cognitifs de l'IA, en réalité, c'est l'IA va réagir sur ce qu'elle sait, donc et pas sur ce qu'elle ressent, parce qu'il n'y a pas de, y a pas de ressenti. Donc toute cette partie ressentie est forcément extrêmement complexe, et je vois un peu comme un petit peu comme un ordinateur va reconnaître des 1 et des 0. Et bah, on est un peu sur le même système, c'est-à-dire que tout ce qui va être blanc ou noir sera très simple à gérer, mais tout ce qui sera un peu dans les nuances de gris va être plus complexe. En tout cas à l'heure actuelle, à part si je me trompe totalement, mais pour moi c'est plus ça. Alors en évoluant, c'est sûr que il y aura des améliorations, mais je pense pas que demain on soit remplacé par une IA ou par autre chose sur la partie finale du recrutement, parce que je suis pas sûr que toute cette partie ressentie soit gérable, et je pense que c'est la limite de l'IA actuellement. Et pour empêcher ça, je pense qu'on n'y est vraiment pas encore. Alors même si on voit des choses qui évoluent, hein, même en dehors du recrutement, je veux dire d'un point de vue plus sur de la robotique et sur de l'IA de manière globale, il y a eu des tests, il y a eu des choses de fait, il y a eu pas mal de trucs, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, l'humain reste toujours la personne qui pourra dire si oui ou non cette personne sera compatible. En tout cas, d'un point de vue savoir-être ou ressenti, feeling, appelons-le comme on veut, mais d'un point de vue global, sans se baser sur des faits, sur des datas, sur de la donnée ou sur autre chose. Justement, prendre en compte l'humain par l'humain, tout simplement.
C'est des choses imperceptibles par la machine. C'est un peu comme de rouler dans une voiture à pédale, tu vois, et puis de créer le moteur à combustion, et donc du coup tu continues de rouler mais plus vite, et du coup t'as pas besoin de pédaler. Donc c'est un peu le, tu vois, quand tu parles de ouais, ça va automatiser le sourcing, machin. Donc en fait les tâches un peu reloues.
Mais moi, c'est, tu fais très bien. Pour moi, c'est comme l'invention de machine à vapeur. Et même je dirais tout le reste, on voit par exemple tu parlais de la voiture à pédale, on a eu après le moteur à vapeur, t'as le moteur à combustion détente, on a le moteur électrique qui arrive et la voiture autonome qui est mise en place, mais en réalité l'objectif c'est de se déplacer, et ça reste le même, on est toujours sur un déplacement. Donc il évolue, il change.
Du coup, tu vois, dans la voiture autonome, il n'y a plus personne qui conduit.
Ouais, mais ton objectif principal quand tu prends ta voiture, c'est pas de conduire, c'est de te déplacer. La voiture, son objectif à elle, c'est de te prendre d'un point A et t'emmener à un point B. Avant, auparavant, tu la conduisais. Alors certains vont dire, mais moi je veux continuer de la conduire. Ok, parce que c'est ta passion, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu
préfères. Si ton action, c'est de recruter, est-ce que demain, tu vois, mettons que ton processus, ça soit cette voiture.
Ouais.
La voiture. En fait, toi, ton déplacement, oui, c'est le recrutement. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Demain, il n'y a plus de pilote. Et en fait, tu me dis, OK, il y aura un pilote, quoi qu'il arrive, pour prendre la décision finale, etc. etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'un jour...
Qu'un jour, ce ne sera pas le cas. Je dis juste que ce n'est pas demain la veille.
OK.
Ouais. Oui, je pense que... Alors, je sais pas sur quelle temporalité, mais oui, un jour, je pense que... alors, peut-être pas tous les recrutements, mais une bonne partie des recrutements pourront se faire sans intervention humaine. C'est possible. Je dis pas forcément le contraire. Il y a peut-être des métiers qui s'y prêtent plus facilement, ou des choses plus simples sur du recrutement un peu différent. C'est possible. Je pense qu'il y en a d'autres qui seront beaucoup plus compliqués à faire remplacer par on va dire par la machine au sens large. Mais après, c'est pas demain la veille. Je pense quand même ça va prendre un petit peu de temps pour que ça soit mis en place. Et je dirais qu'en effet, il y a plein de métiers qui vont devoir évoluer. Et le nôtre et le mien, en l'occurrence, en fait partie aussi. En fait partie, il y aura peut-être un métier de recrutement qui sera un peu différent, qui sera peut-être moins sur faire des entretiens, des comptes rendus, etc., mais peut-être plus sur de l'analyse de besoins pour du paramétrage de l'outil de réflexion informatique, des choses comme ça, en fait. Et là, on glissera sur un métier qui aura besoin toujours de ce ressenti, de ce feeling humain, mais on arrivera à le faire le donner à la machine, à transmettre ça à l'IA ou à la machine, ou peu importe le nom que cette entité aura à ce moment-là. Allez, je te l'offre celui-ci. et voilà, en fait, et je pense que c'est aussi ce qu'on voit sur beaucoup de métiers qui ont dit le métier va disparaître. Alors, le métier que l'on connaît va disparaître, oui. Mais le métier en lui-même ne disparaîtra pas, l'action ne disparaîtra pas, elle sera faite de manière différente, et on aura besoin d'autres personnes. Mais ça, c'est ni plus ni moins que la révolution industrielle qui a eu une époque. Quand vous étiez 40 sur une chaîne de production, malheureusement, entre guillemets, l'automatisation de certaines choses, même pas par des robots, juste par des convoyages, ça a divisé par deux le nombre de personnes. Après, on a encore eu une évolution technologique, et maintenant on est sur les robots et on est sur l'IA et sur tout ça. Et en fait, c'est l'évolution. Malheureusement, il faut être en capacité d'évoluer avec son environnement technologique. Certaines personnes, malheureusement, n'y arrivent pas, donc doivent se faire une reconversion professionnelle parce que leur métier disparaît et tout le monde ne peut pas évoluer non plus parce qu'il n'y a pas non plus assez de postes pour tout le monde. C'est aussi une vérité. Mais voilà, il va falloir réussir à évoluer avec, peut-être s'orienter plus dans la data RH, peut-être s'orienter vers des choses qui sont un peu différentes que le pur recrutement classique comme on le connaît actuellement. Et d'ailleurs, qui n'est pas le même que quand moi j'ai commencé de travailler il y a une dizaine d'années. Il a déjà évolué, ça a déjà changé.
Les gens, ils restent combien de temps en poste là, chez Safran ?
Chez nous, on a un peu de tout. On vient de faire les médailles du travail, et j'avais jamais vu autant de médailles du travail décernées dans une entreprise. On a des personnes qui sont là depuis 44 ans, qui sont entrées à l'école et qui termineront en retraite. Et on a à côté de ça des personnes qui restent 2 ans. Voilà. On a vraiment
tout. Ils sont plus jeunes, ceux qui restent 2 ans.
C'est plus jeunes, forcément, c'est ceux qui arrivent de manière plus récente. On a un rapport au travail qui est différent maintenant. Puis en plus on est dans un métier où ils savent pertinemment qu'ils vont pas avoir trop de mal à retrouver derrière, et ils sont chassés d'ailleurs en permanence. Moi j'ai un concurrent qui est en train de s'implanter, nous on est situé à Orléans, voilà pour information, et qui est en train de s'implanter à Orléans. Je sais qu'il décide de débaucher mes comptables parce qu'il sait pertinemment qu'il y a une certaine compétence qui est présente, il y a il y a un savoir-être qui est présent, il y a une posture comptable qui est bonne, il y a un métier de compétence de conseil qui est présente aussi, et il y a une spécificité agricole qui est aussi présente et qui est assez rare. Et tout ça fait que c'est difficilement remplaçable. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple quand on ouvre un site ? C'est d'aller prendre dans la concurrence. Et là, je me suis perdu.
Non, pas moi, t'inquiète pas, je t'écoute avec attention. Est-ce que tu penses que, tu vois, là en écoute active, je te reformule, en gros, t'as dit il y avait des gens qui restaient 40 ans,
oui,
qui font partie des anciennes générations. T'as des gens qui restent de moins en moins longtemps à leur poste. Tu penses que c'est dû à l'évolution des outils de recrutement qui fait que les gens restent moins longtemps en poste parce que c'est plus facile en fait de les chasser, de passer d'un job à un autre, machin. Enfin, il y a plein de trucs contextuels, mais j'aimerais placer cette évolution dans le futur. C'est-à-dire que en fait, demain, ça sera monnaie courante de passer 6 mois, 1 an sur un poste, ou peut-être 3 mois, parce que ça sera tellement simple de trouver le job d'après, que ça sera tellement simple de sourcer, de proposer à des gens, ou même les gens qui veulent trouver, de trouver autre chose. Au final, ils vont pouvoir rester que quelques mois à leur poste et vont faire des petits contrats de freelance ou des petits slashers ou évoluer assez rapidement.
Il y a une sur du projet, sur des choses une vision un peu différente de l'emploi. En fait, je dirais que cette réflexion, en effet, les outils de recrutement et les outils de recherche d'emploi, parce qu'il y a aussi ça de l'autre côté, les outils de recherche d'emploi pour les candidats s'améliorent aussi. Il y a des outils qui ont vu le jour qui permettent aussi facilement de ne serait-ce que LinkedIn, hein. C'est un outil qui permet de se mettre en relation beaucoup plus facilement. C'est quand même beaucoup plus simple d'aller sur LinkedIn, demander en contact à un responsable de recrutement ou un manager, plutôt que d'envoyer une lettre par la poste ou de la déposer à pied, etc. Donc tout ça permet de faciliter les échanges. Après, je sais pas si le côté 3 mois, 6 mois, ça me paraît peu. Ou alors c'est sur du projet spécifique. Sur certains postes, tu vois, qui fonctionnent un peu en plutôt projet, pourquoi pas. Si je prends sur les métiers sur lesquels je travaille actuellement, en fait, il n'y a pas d'intérêt de rester 3 mois en poste. Parce que, ou même 6. Ou en fait, en réalité, en dessous d'un an, c'est pas très utile parce qu'il y a cette échéance dont je parle depuis le début, mais cette fin de période fiscale, qui est un peu la cerise sur le gâteau sur une année complète. Ou quand vous êtes en cabinet mais que vous n'avez jamais fait une année complète dans une entreprise, on dit ok, mais vous n'avez pas fait un cycle complet de comptabilité, donc concrètement vous n'avez jamais été un comptable complet en réalité. Par contre, là où je te rejoins, c'est que vu que c'est beaucoup plus simple, les outils sont beaucoup plus efficaces, et pourtant c'est pas plus facile de recruter parce qu'il y a une donnée qu'on gère beaucoup moins, c'est la donnée humaine en face. Même si c'est plus simple de les contacter, de les approcher, de leur parler, de tout faire, mais c'est plus simple, c'est plus compliqué de les avoir quand même pour autant, parce que la quantité de personnes disponibles n'est pas en adéquation avec les besoins. Donc forcément, ça pose problème. Et c'est aussi là où les choses s'inversent, c'est que le rapport de force s'inverse aussi. On est dans une étape où le candidat est de plus en plus en position de force par rapport à l'entreprise. D'où l'intérêt d'avoir des outils qui vont nous permettre d'augmenter les contacts et d'augmenter toute cette partie recrutement, qui là devient forcément très intéressant et très pertinent, parce que sinon on est un petit peu coincé forcément. Donc je te rejoins sur le côté, en effet, cette facilité de changement ne force pas les personnes à rester plus longtemps en poste, parce que là où auparavant ça pouvait être plus compliqué, et puis il y avait aussi le côté j'ai un CDI, je le garde précieusement parce que sinon je pourrais pas acheter une maison, parce que sinon ça va être compliqué, parce que etc. Maintenant c'est de moins en moins le cas, donc c'est aussi des choses qui changent. Et donc, puis forcément tout ça perturbe tout l'équilibre.
Là où je voulais t'emmener justement, oui. C'était que tout à l'heure, face à ce constat, je partage un total, et que tu me disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après derrière? Mais ils vont faire autre chose. Ils vont passer plus de temps à récupérer de l'information pour alimenter la machine de la manière correcte, etc. Et la question que je t'ai dit, est-ce qu'il y a une accélération, une réduction du temps de présence sur un poste, machin? Et ben en fait, l'enjeu peut-être des entreprises demain, c'est que vu qu'il y a une accélération des outils qui permettent de rechercher l'emploi et des outils qui permettent de sourcer des profils qui correspondent à tes postes que tu as besoin, etc. en interne, il y a un roulement qui va se faire naturel, tu vois. Et du coup, de toute façon, ça s'accélère. Et donc, en fait, ton enjeu demain, ça va être de dire, OK, je recrute quelqu'un, mais il faut que je le fidélise. Il faut que je fasse en sorte que cette personne, elle reste dans ma boîte. Et en fait, les mecs, ils vont tous passer fidélisateur, fidéliseur, fidélisateur.
Ouais, l'un ou l'autre, peu importe. Mais oui, c'est vrai qu'il y a c'est un enjeu énorme. Et c'est un enjeu aussi énorme chez nous, ce fameux turnover qu'on peut avoir. Et en dehors de ce pourcentage qui est en place, parce que ça veut un peu tout dire et rien dire. Un turnover, c'est aussi par rapport à un secteur. Si vous êtes dans un secteur qui bouge beaucoup, avoir beaucoup de mouvements dans votre entreprise, c'est moins alarmant. Par contre, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il peut y avoir des problèmes. Mais c'est vrai qu'en interne, on a aussi un gros enjeu sur la partie rétention des talents. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de garder quelqu'un que d'en trouver un autre, globalement. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi beaucoup sur l'intégration, le fameux onboarding de nos collaborateurs. Parce que tout le monde se rend compte que souvent, ça se passe pendant cette période de 18-24 premiers mois. Alors, c'est vrai, quand on dit 24 mois, pour certaines personnes, ils font wow, « waouh, c'est déjà beaucoup dans une boîte ». Oui, mais pas chez nous, pas dans nos genres d'entreprise. Quand vous êtes dans une boîte de com ou sur une SS2I, sur des choses qui ont un taux de rotation qui est assez important des effectifs, chez nous, ça ne l'est pas vraiment. Un comptable, quand il est bien, il reste normalement. Donc voilà, et on travaille aussi là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on a toute cette partie formation, accompagnement de nos collaborateurs. Parce que justement, quelle meilleure façon de les garder que de les former? Et voilà, forcément, on se sent valorisé quand on évolue dans ses compétences, quand on évolue dans son poste aussi. C'est pas le tout d'évoluer dans les compétences, quand on évolue dans sa rémunération, dans son degré de maîtrise de son poste, dans sa relation avec ses collègues. Donc tout ça, c'est important. Donc là-dessus, on travaille aussi beaucoup. Et puis, comme je le disais, l'intégration. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, chez nous, on est très très bon sur les premiers mois. Alors ça, on intègre hyper bien. Les gens se sentent hyper bien, ils sont accueillis, on fait une journée spécifique où la directrice générale parle, le président est présent, les directeurs parlent de leur spécificité de service, etc. Il y a une relation, tout ça, ça se passe extrêmement bien. En revanche, le quotidien rattrape un peu tout le monde rapidement. Et l'intégration qui est prévue sur 12-18 mois est raccourcie, et on se rend compte que sur les dernières parties, malheureusement, les gens se sentent un peu moins accompagnés. Donc on travaille forcément dessus, on est en train de mettre en place tout un process et tout un plan qui permettra d'éviter cela. Mais en fait, après, on est sur un cercle vicieux. Quand vous êtes en manque de personnel sur certains sites et sur certains postes, automatiquement, c'est compliqué d'accompagner des nouveaux. Parce que il y a le quotidien, il y a la production à faire, etc. Donc c'est tout ça en fait. Et il faut réussir à un moment donné arrêter la machine, arrêter ce cercle, le casser, pour repartir sur des bases correctes et sur des bonnes bases pour que justement il n'y ait plus de soucis derrière. Et c'est là ce qu'on est en train de faire. Et je pense que beaucoup de sociétés ont aussi ce constat-là et sont en train d'essayer justement de mettre en place ces choses-là pour repartir sur des bonnes bases, sur cette notion de rétention des talents. Et nous, on voit bien, en tant que service recrutement, Dès qu'on a diminution des départs, l'oxygène revient en réalité. Voilà, quand on passe de 80 postes à 40 postes, c'est forcément pas la même chose. En termes de disponibilité pour les postes, pour les managers, pour les candidats, c'est beaucoup plus simple. L'expérience management, recrutement, l'expérience candidat se trouve forcément extrêmement bénéfique, en tout cas pour l'ensemble des personnes qui interviennent.
Très clair. Très très clair. Je partage. Donc grosso modo, on aura humain, IA, ensuite humain, ensuite IA, ensuite humain. L'humain en capsule de l'IA avec des humains. Ok, intéressant. J'ai une question aussi à te poser. C'est alors, on t'a un peu répondu. En général, tu sais, je pose la question, est-ce que tu penses que les technos vont prendre le pas sur l'humain? On y a répondu.
Ouais.
C'est que c'est un peu une combinaison, machin. Moi, j'ai envie de te demander, parce que ça, c'est toujours intéressant à savoir, c'est si tu devais inventer quelque chose qui te ferait gagner du temps ou qui te faciliterait la vie, ce serait quoi?
Comme j'ai dit, ce que j'aime le moins dans mon boulot, c'est le sourcing. Donc quelque chose qui me permet de sourcer à ma place, vraiment c'est ce que j'attends. Voilà, c'est vraiment ce que j'attends. C'est ce que j'attends de l'IA parce que je sais, parce qu'on en a parlé et parce que je vois un peu ce qui se passe d'un point de vue global. C'est ce qui est en train de se mettre en place et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors après le problème est que pourquoi c'est un métier de sourcer dans notre domaine d'activité? Parce que c'est compliqué d'aller chercher je parlais tout à l'heure de un peu du mineur qui est au fond de sa mine et qui cherche la pépite. C'est facile d'aller en surface des job boards ou autres pour voir un peu ce qui se passe, c'est très facile. Là où c'est compliqué, c'est quand vous êtes à plusieurs kilomètres au fond de la mine et que vous allez continuer de chercher les profils. Et c'est là où certaines personnes qui sont très douées pour ce métier-là, pour cette activité donc de sourcing, ont un intérêt énorme, et c'est là où ils ont une importance très importante, c'est que je ne sais pas encore si l'IA en est capable et quand elle sera capable d'aller chercher justement, d'aller comprendre un profil en plus de ce qui a été, naturellement dit, d'un descriptif de poste ou d'autres choses, ou de mots-clés, ou de diplôme, ou peu importe ce qu'on lui donne comme info, mais d'aller plus loin que ça et d'aller justement aller creuser tout au fond des limbes que sont les CV tech. Alors, avec la RGPD, les limbes se sont réduites parce que les CV les plus vieux disparaissent, mais moi je me rappelle des trucs où on montait sur 7-8 ans. Et on se disait, on sait jamais, on appelle, on sait jamais, en 8 ans il peut changer de boulot, c'est pas un souci. Puis en fait, on se rend compte qu'il avait changé 4 fois de boulot depuis, qu'il n'était plus du tout dans ce métier-là, et concrètement, maintenant il a levé des chaises sur le plateau du Larzac. Donc voilà, mais c'est là où je me dis, si à un moment donné l'IA peut faire ça, pour moi en tout cas, mon métier va être beaucoup plus sympa. Vraiment beaucoup plus sympa.
Il te faut un bâton de sourcing, quoi.
Ouais. Si tu trouves ça, ça peut être pas mal, j'avoue. Un bâton de sourcing, j'aimerais beaucoup.
Bonjour. Bon, je dis que je faisais pas de prosélytisme.
Non, mais bon.
Mais bon, quand sortira cet épisode... mais tu le fais exprès ou pas? Je t'en ai parlé.
Non. Voilà, oui, je le sais, mais c'est pas pour autant que je le fais exprès. C'est vraiment quelque chose qui, moi, au quotidien, c'est pas pour ça que j'ai fait ce boulot-là. C'est pour le parti... justement évaluation des personnes, relations et autres. La partie sourcing m'intéresse beaucoup moins, donc même si j'avoue une certaine fierté d'aller dégoter une petite pépite au fond qu'on n'avait pas vue et de se dire ok, c'est peut-être le bon quand même.
Ouais, mais donc, toi tu as dit ta fierté à toi, et ce qui te motive, c'est en fait je te présente trois top profils issus d'un sourcing IA, et après, à toi d'aller les convaincre de te parler, quoi.
Ouais, c'est ça. Même si c'est plus que trois, honnêtement, c'est pas la quantité, c'est pas gênant. Mais juste ne pas avoir à aller les chercher, en fait, c'est ça. Tu vois, même si d'ailleurs, je dois en trier 50, c'est pas le souci. Mais là où ce que j'attendrais de l'IA, c'est que ce sont 50 CV que moi, j'aurais sélectionné si j'avais fait la recherche. Tu vois, et pas 50 CV approximatifs ou bancal, parce que Parce que dans ce cas-là, certains outils existent déjà, tu vois, actuellement pour ça. Ou certaines sociétés le font aussi. Ils se disent, bah voilà, c'est éloigné, c'est approximatif, c'est proche, on est dans la cible, on est un peu éloigné. Non, moi, ce que je veux, c'est que même si c'est un pari, et là, l'IA aussi aura sa limite, parce qu'on le parlait tout à l'heure, l'humain, ce qu'il va apporter, c'est aussi se dire, ça, c'est éloigné, mais ça peut le faire. Tu vois ce côté-là ? Là, l'IA aura du mal à gérer cette partie-là, parce qu'elle aura peut-être quelque chose qui lui dira, non, ça, ça ne va pas.
Sauf si tu développes un système de compétences transverses ou de post-transverses par rapport à...
Et là, d'où l'intérêt de ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui va alimenter l'IA en données. Et là, le métier va évoluer aussi, je pense, dans ce sens-là. C'est que pour que la pertinence des profils retenus par l'IA, par peu importe ce que c'est, ça dépend de l'information qu'on lui donne. Et on retrouve aussi quand... moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui sourçaient pour moi. Et quand on est travaillé avec des chargés de recherche, la qualité du travail que le chargé de recherche va faire va dépendre de la donnée qu'il va avoir. Alors, ce n'est pas un IA, c'est un humain. Mais si on est un petit peu en travaillant en surface, sans aller creuser sur cette partie besoin ou compétence ou savoir-être, ou un petit peu sans lui expliquer, je dirais, toute la partie alias des métiers, parce qu'il y a des métiers qui sont faciles à identifier. Un comptable, c'est facile. On tape comptable, ça sort. Il y a des métiers, là, par exemple, je viens de recruter un chargé de BI SQL, chargé de dev BI SQL. Alors, à part pour ceux qui viennent du monde de l'informatique, tout de suite, ça ne veut rien dire, ce que j'ai pu dire. Et quand quelqu'un découvre ce métier-là, déjà, il faut qu'il apprenne avec le BI, le SQL, parce que c'est du Python, du R, tous les types de langages qui peuvent être utilisés. Et tout ça, si on ne donne pas l'information soit à un humain, soit à une machine, automatiquement, le sourcing sera mauvais. Ça, c'est une certitude. Et c'est là où l'intérêt de quelqu'un qui va avoir un poste qui va évoluer dans le recrutement va pouvoir permettre, je pense, aussi d'améliorer toute cette partie efficacité de l'IA qu'on pourra... Et là, on aura un résultat attendu qui sera au niveau de ce qu'on espère, en tout cas. Et il pourra sortir des profils un peu éloignés, pile loin de la cible. En tout cas, j'espère. Et quand ce sera possible, je dirai merci. Ça me facilitera la vie.
C'est tout ce qu'on souhaite faire. Mais c'est vrai. Enfin, je pense personnellement que le sourcing, à part pour effectivement les chercheurs de pépites, les chercheurs d'or qui feront toujours mieux que la machine, parce que oui, voilà, ils pourront faire. Mais faire des booléens, scanner et lire du CV, une machine peut le faire.
Oui.
Et effectivement, plus tu vas donner d'infos au départ, mieux ce sera, plus ce sera pertinent. Puis en fonction des postes aussi. Enfin, je veux dire, est-ce que tu cherches un C-level à 200 000 euros par an, ou est-ce que tu cherches quelqu'un en intérim, tu vois, c'est pas ça. Pareil. C'est pour une mission de 3 semaines, ou est-ce que c'est même pour un poste stratégique d'une boîte du CAC 40, tu vois.
Donc, et c'est ce que je te disais sur tout à l'heure quand je disais certains postes se prêtent plus au jeu de l'IA. Je pensais notamment à des postes en lien avec l'intérim.
Fais attention, tu joues le jeu de l'IA, toi.
Alors, je suis pas du tout un anti-IA, au contraire. Hein. Moi, je suis.
J'ai bien compris.
De base,
t'avais pas la rêve du coup.
Ah non, excuse-moi, non.
C'était le jeu de l'IA. Enfin bref, c'était.
Ah, excuse-moi, mince. Non, désolé. Pourtant, généralement les rêves, je réagis, mais là, non, j'ai pas eu celle-ci.
Je te l'ai dit quelqu'un a compris cette vanne, qu'il se taise à jamais.
Ou alors qu'il parle maintenant, tant pis. C'est compliqué. Je pense notamment que sur certains postes, c'est beaucoup plus simple. Sur des postes avec une répétition sur sur du volumique, sur une écran sur des profils qui sont moins complexes en recherche, là, l'IA, je pense que dès maintenant, a son rôle à jouer. Là où je me posais des questions, c'est sur des profils plus complexes, où là, je pense qu'actuellement, je ne sais pas si on est en rendez-vous.
Ben, en fait, il faut commencer sur des trucs simples, ça va se complexifier au fur et à mesure.
C'est ça. Il faut derrière... augmenter petit à petit le niveau de difficulté.
Exactement. On a fait un tour magnifique hein, sur pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder, ou tu t'es dit « Ah tiens, on n'a pas parlé de ça ».
Alors, je ne me suis rien dit de tout ça pour l'instant. Non, je pense qu'on a plutôt pas mal abordé pas mal de choses. Non, pour moi, il y a une chose importante qu'on minimise beaucoup, c'est la formation des managers. Parce qu'on se retrouve avec de plus en plus d'entreprises qui ont des équipes recrutement, qui ont des personnes qui sont dédiées à ce métier-là et à ces besoins-là, parce qu'ils savent que maintenant, ça devient un poste clé de l'entreprise parce que les ressources sont nécessaires pour travailler, pour produire, pour être rentable et dégager des bénéfices. Mais si on n'arrive pas à les recruter, automatiquement, ça devient très complexe. Donc, je pense que ça, c'est identifié de la part des entreprises. Mais ce qu'ils n'identifient pas totalement, c'est qu'un recruteur ne recrute pas tout seul. Il recrute avec des managers d'équipe, avec des responsables, avec des directeurs. Et plus on est haut dans la hiérarchie, plus les réflexes de recrutement sont bons. Et malheureusement, plus on descend et plus ils diminuent. Donc, je pense que c'est important de former. On va d'ailleurs, nous, de notre côté aussi, travailler là-dessus, parce que pour accompagner nos managers sur l'entretien de recrutement, déjà ne serait-ce que ça, et j'irai même plus loin sur ce qui est autorisé ou non en entretien, parce qu'on a encore des réflexes qui ne sont pas bons sur certains managers, malheureusement. Mais ce qui est normal, parce qu'en fait, si on ne leur dit pas, s'ils ne l'apprennent pas, on ne peut pas le savoir. De base, ce n'est pas une connaissance universelle. Donc, il y a entre certaines questions ne se posent pas, certaines choses ne sont pas à creuser. J'étais hier avec Cap Emploi au sein de France Travail pour parler du handicap. Pareil, bon, c'est encore autre chose, mais qui est aussi une chose spécifique, le recrutement de travailleurs handicapés, qui globalement est la même chose, mais il y a encore une autre approche dessus à faire. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à faire auprès des managers pour justement les préparer à ce qui va se passer demain. Parce que, je vous disais tout à l'heure, les rôles s'inversent. Auparavant, on mettait une annonce, on avait 50 candidatures qui étaient plutôt ciblées, alors, toujours avec des moutons noirs hein, qui postulaient, on ne savait pas trop pourquoi, mais ce n'est pas le cas maintenant. En tout cas, moi, ce n'est plus le cas. Dans tout ce que je connais depuis pas mal d'années, on met une annonce, il y a trois personnes qui postulent, et c'est trois personnes qui n'ont rien à voir. Donc, c'est compliqué, le jeu des annonces, c'est compliqué. Alors, quand on est dans une grosse boîte et qu'on recrute des profils plutôt classiques, là, il y a toujours un flux continu, donc c'est moins compliqué. Mais quand on est sur des profils plus pénuriques dans des boîtes qui n'ont pas une notoriété nationale ou internationale, ça devient plus complexe. Et il est important de former ces managers pour justement les préparer à un entretien où il faut être un peu sexy quand on parle du poste. Quand on parle dans l'entreprise, alors l'objectif, c'est pas de mentir, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt, puis ça va à l'encontre de tout ce que j'ai pu dire depuis le début, quand même. Mais en tout cas, réussir à leur donner envie de nous rejoindre. Et ça passe aussi par la formation des managers. Parce que le recruteur, lui, saura le faire, normalement. S'il ne sait pas le faire, c'est que c'est un problème de métier. Mais en tout cas, normalement, il est censé savoir le faire. Et le
Okay.
manager, lui, pour l'instant, n'y est pas encore.
Effectivement, tout à l'heure, tu fais quand je t'ai dit voilà comment tu arrives à sortir les gens de leurs biais, à sortir les gens de leurs idées préconçues. Mais ça va passer effectivement par de la formation, parce que le recrutement, c'est un métier. Et que finalement, ces gens-là qui ne sont pas formés au recrutement vont prendre des décisions qui sont structurantes pour le futur de personnes
Bien sûr.
et le leur aussi.
Oui, c'est ça. C'est la personne qu'on recrute, cette personne, le manager, l'équipe et l'entreprise. Donc tout ça a un impact assez important. On sait qu'un recrutement loupé coûte très cher à une entreprise. Donc, surtout si la personne n'est pas écartée à temps.
Non, mais
Donc,
c'est cher et surtout fatigant, quoi.
c'est ça. En fait, ça coûte en tout. Ça coûte en temps, ça coûte en argent, ça coûte en épuisement et en charge mentale. Ça coûte en tout, même si c'est notre métier. Pour un manager, c'est pas le sien. Donc, être amené à tout le temps recruter en permanence, ça use. Ça use et c'est usant. Et c'est pas ce pourquoi il est censé être payé de base. Donc, c'est pas ce pourquoi on l'a recruté, en l'occurrence. Donc, voilà, c'est important de pouvoir les former, les accompagner sur cette partie recrutement. Et je sais que nous, ils apprécient beaucoup le fait qu'ils ne soient pas seuls en entretien. Ou avec un autre manager. Voilà. C'est pas le... Alors, ils le sont quand ils sont en test, mais ce n'est pas la même chose parce que là, ils sont dans du technique. Et technique, ils maîtrisent. Et ils sont là pour ça. Quand on est sur du savoir-être et du feeling, c'est pas toujours évident.
Ok. Si tu devais donner un nom à cet épisode, Jérémy, ça serait quoi?
Je ne sais pas du tout. Si je devais donner un nom, Tac, tac, tac. Là, je t'avoue que la question me fait sécher un petit peu, je réfléchis.
On a parlé de plein de choses.
On a
Voilà,
parlé de plein de choses, mais...
ouais, on a parlé de ton parcours de recruteur. Attends, question. Tu vas faire quoi après le métier de recruteur, toi, si tu arrêtes le recrutement? Tu fais quoi?
Je te dis ce que j'aimerais,
Ouais,
monter un
vas-y.
restaurant.
Ah ouais?
Ouais. J'ai voulu le faire il y a très longtemps avec mon père, parce que mon père est du métier. Et ça se voit un petit peu que j'ai hérité un peu de la bonne bouffe et de je dirais un petit peu du côté convivial et sympa de tout ça. Ouais, j'avoue que je pense qu'à terme, je finirai par monter un resto, un truc. C'est vrai que c'est un truc qui trotte toujours dans un coin de ma tête. Voilà. Donc pourquoi pas, à une époque, je voulais être DRH, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est pas forcément ce à quoi j'aspire du tout.
Ok.
Donc, ouais, je pense que soit du recrutement, soit. Et puis, ce qu'on s'est dit, toute cette partie IA, tout ça, moi, ça me. J'ai toujours été un petit geek dans mon coin aussi, donc c'est des choses qui me parlent aussi, tu vois. C'est un peu le côté science-fiction qu'on a quand on est gamin, tu vois, sur certaines choses, et qui se met en place. Alors, on n'est pas au niveau des séries et autres films que j'ai regardé quand j'étais jeune, et d'ailleurs toujours maintenant, mais quand même, voilà, ça, c'est une pente qui doucement nous emmène vers là, et voilà, moi j'attends aussi ça, mais sur la partie, si je dois vraiment quitter ce monde du recrutement des RH, je t'avoue que le monde de la restauration me plairait beaucoup.
Allez, eh ben, c'est tout ce que je te souhaite, alors, un de ces quatre.
J'aimerais.
Et si ton resto, tu le montes au Canada, je passerai manger.
Bah écoute, avec plaisir.
Si tu le fais en France, je passerai plus facilement.
Ouais, c'est moins compliqué, on est d'accord. Il y a plus de chances qu'il se fasse en France qu'au Canada, quand même.
Ah, là, tu fais plaisir. Bon,
Voilà.
ouais, ok. Moi aussi, je suis un amoureux de la table.
Ah, c'est.
Donc, on se retrouvera là-dessus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait alors pour ce titre
Sais
de
pas, je
podcast,
dirais.
là?
Je sais pas, vision actuelle du recrutement, j'en sais rien. Ça, on a beaucoup parlé de ce qui se passait en ce moment, de l'actualité, de comment c'était actuellement, mais on a aussi parlé de l'évolution que ça pourrait avoir, tu me diras, et de la direction que ça pourrait prendre. Puis je suis très mauvais pour trouver des noms, en plus mon côté créatif est vraiment pas bon.
Moi, je pense que t'es assez intuitif, hein, quand
Ouais,
tu
mais là,
parles
tu
et
vois, il y a rien
tout.
qui sort. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on a pu se dire?
La question que tu préfères poser en entretien, c'est si tu m'as dit tout à l'heure, c'est
C'est l'extra pro.
ouais,
Ouais.
l'extra pro. L'extra pro, c'est le plus important. Après, tu m'as aussi parlé de cerner quels étaient les souhaits des gens. Comment tu te vois dans 5 ans, quel impact tu voudrais avoir sur la société.
Tout à fait.
Et tu me l'as dit pour toi, et tu m'as dit que c'était important que tu veuilles récupérer ça pendant les entretiens. Je pense que ça pourrait être un nom d'épisode. Alors j'essaye pas de t'influencer, parce qu'en général, c'est mes invités
Mais
qui choisissent le nom,
bah
mais
ouais,
moi je trouvais ça cool. Tu te vois comme tu comment tu te vois dans 5 ans
ouais.
avec Jérémy Nadoulec, tu vois.
Ouais, j'aime bien l'idée de projection un peu, j'aime bien. J'aime bien, puis en plus on a fait aussi le parallèle avec le recrutement de son évolution, donc ça passe aussi bien. J'aime bien l'idée.
Pas mal,
Tu vois? Pas besoin d'être créatif quand on a quelqu'un qui l'est avec soi.
hein? C'est la combinaison, c'est la
C'est
combinaison, la
ça. Mais c'est ça.
complémentarité des skills.
Il faut s'entourer de personnes qui ont les compétences que l'on n'a pas.
Bah, je partage 100%. Je complète à 100%. Bah, nickel. Bah, écoute, comment tu te vois dans 5 ans avec Jérémy Nadoulec? Nickel. Merci beaucoup, Jérém,
Merci à toi.
d'avoir. Ouais,
Merci pour l'invite, c'était sympa.
c'était grave
C'est
cool.
très sympa.
Merci à tous aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Pour suivre la nouvelle sortie des nouveaux épisodes, ça va être deux fois nouveau, donc c'est vraiment nouveau. Du coup, il suffit de suivre la page LinkedIn Bifo. Alors, on n'est pas super actif. Les pages entreprises sur LinkedIn, c'est pas la folie non plus. Mais bon, si vous avez un compte Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, vous abonnez sur la chaîne et vous suivrez la sortie des nouveaux épisodes. Il y a juste sur YouTube où on n'y est pas, peut-être qu'on y sera un autre jour, mais bon, voilà, qui peut le plus, peut le moins, mais là, pour le moment, voilà, on peut le moins, c'est quand même très chronophage, et on a une boîte à faire tourner. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, taquez-le sur un post de la page, envoyez-le nous, ça sera avec grand plaisir qu'on étudiera tout ça. On ne refuse personne. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez, ça nous aide énormément. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Jérémy.
Merci à toi, Aurélien.